Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Retour sur une page de l'histoire moderne, c'était il y a un an, le 11 février 2013, le pape Benoît XVI annonçait sa renonciation, suscitant la stupeur, l'inquiétude, mais aussi le respect et l'admiration. Vous entendrez dans cette édition le cardinal Poupart, qui se trouvait dans la salle du consistoire au moment de l'annonce, mais aussi le père Lombardi, qui évoque le rôle discret du pape émérite dans la vie de l'Église. Nous nous attarderons ensuite sur la journée mondiale du malade. Témoignage du directeur général de l'association Simon de Cyrène, à l'origine du concept de maison partagée. Bienvenue dans ce magazine. Il y a un an, le monde entier avait les yeux rivés sur le Vatican. Benoît XVI venait de poser un geste inédit dans l'histoire contemporaine en annonçant renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Un peu avant midi, le 11 février 2013, le pape déclare en latin être parvenu à la certitude que ses forces, en raison de l'avancement de son âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Une décision prise en pleine liberté, précise-t-il. C'est lors d'un consistoire ordinaire pour la canonisation de trois bienheureux devant les cardinaux que Benoît XVI a fait part de sa décision 8 ans après son élection le 19 avril 2005. Le cardinal Paul Poupart, président émérite du Conseil pontifical pour la culture, était présent.
Dès les premiers mots, j'ai entendu une grave chintem et tatem. J'ai dit mon Dieu. Et j'ai compris tout de suite. Et alors nous nous sommes regardés dans la salle du consistoire, vous savez comment nous sommes disposés, je pouvais lire sur le visage des cardinaux qui me faisaient vis-à-vis mes propres sentiments. Étonnement, stupeur, préoccupation, admiration. Et il a glissé, tout d'un coup, il était parti, avec cette douceur, cette humilité, cette transparence, et du coup, plus personne ne partait. Et nous nous sommes retrouvés donc à 2, à 3, à 4, en disant ben, « Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous faisons ?» Et puis, j'ai repris la voiture. Nous sommes rentrés plutôt dans le silence. Puis quand je suis arrivé, donc les sœurs à l'appartement qui ne savaient pas, on m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone ne cesse de sonner, les journalistes vous appellent, et ainsi de suite. » Alors je leur ai dit « Oh !» Alors, stupeur. Et puis les journalistes, j'allais dire, j'ai été frappé de voir qu'en très peu de temps, eux aussi, sont passés à peu près dans les mêmes sentiments que nous, les cardinaux. Et puis, donc, avec un peu de retard aussi, j'ai pu constater dans l'ensemble des fidèles, dans l'ensemble des gens, la même chose. Après la stupeur, pour certains, un peu de réprobation inquiète, et puis après, la compréhension et l'admiration.
Comment expliquer ce passage donc de cet état de très forte préoccupation ensuite à cette reconnaissance, cet hommage?
Je crois, si vous voulez, fondamentalement, c'est que nous avons été, j'allais dire, comme enveloppés dans un manteau de prière. Ces sentiments qui vont des deux extrémités de la gamme étaient portés tous en même temps par une prière extraordinaire. Il y a eu un choc, et ce choc a fait que l'ensemble des personnes, à commencer par les cardinaux, si je puis dire, ont comme été contraints de sortir de l'événementiel humain qui était en train de se produire à sa dimension et sa profondeur spirituelle. Et puis ensuite, donc, la réflexion. On est obligé d'analyser, mais les sentiments s'entremêlent. Et donc, une réflexion en profondeur donc, sur le ministère de Pierre.
Avec ce geste, Benoît XVI a en quelque sorte désacralisé la fonction papale.
Le geste de renonciation de Benoît XVI a ouvert une nouvelle phase dans l'histoire de l'Église. Nous étions habitués, il y avait une identification entre le service, donc le ministère de Pierre, et la personne jusqu'à sa mort. Et là, par son geste, le pape Benoît XVI nous ramène à ce qui est bien la fonction de Pierre, relisons l'Évangile, et toi, confirme tes frères dans la foi. Donc c'est un ministère. Si vous voulez, il y avait eu, si je puis dire, donc en reprenant un peu votre terme, une sacralisation abusive d'un pape qui était sur un piédestal et qui était sorti un fait du commun des mortels. Et lui, au contraire, donc dès les premiers mots, s'est remis comme un humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. Et alors c'est avec cette clé de lecture que nous pouvons comprendre donc sa décision et sa déclaration. Cet humble ouvrier dans la vigne du Seigneur a retenu dans son âme et conscience qu'il n'était plus apte à remplir sa tâche qui était celle de l'humble ouvrier qui doit confirmer ses frères dans la foi. Voilà.
Le cardinal Paul Poupart, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Après cet acte historique, le pape François a appelé ce mardi les fidèles à prier pour son prédécesseur. Aujourd'hui, je vous invite à prier ensemble avec moi pour sa sainteté Benoît XVI, un homme de grand courage et d'humilité, écrit-il dans un tweet. Depuis le 2 mai dernier, le pape émérite vit retiré dans le couvent Mater Ecclesiae, niché dans les jardins du Vatican. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, deux papes résident sur le territoire de la cité du Vatican. Lors de sa dernière rencontre avec les fidèles à Castel Gandolfo, au soir du 28 février, Benoît XVI avait dit vouloir, avec tout son amour et sa prière, continuer à travailler pour le bien de l'Église et de l'humanité. Dans quelle mesure joue-t-il aujourd'hui encore un rôle important dans la vie de l'Église? Nous avons posé la question au père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège.
Sa présence est d'une présence spirituelle, réelle, des prières, des proximités spirituelles pour le travail de son successeur. Dans ce sens, l'avoir au Vatican, c'est pour moi une grâce et une richesse, car exprime très bien la continuité dans le service de l'Église et du monde, dans une façon très respectueuse, mais très profonde et intense. La relation entre le pape émérite et le pape François, c'est une relation totalement cordiale, sereine. Et les images de deux papes, pour ainsi dire, qui prient ensemble, c'est très bien expressif de la réalité. Il y a une contribution dans la prière pour la vie de l'Église, qui est la contribution spécifique des Pope Benoît. Et dans la prière et le service pastoral actif, qui est le service des papes François, mais avec une syntonie profonde.
Ce geste historique de Benoît XVI nourrit en quelque sorte le pontificat du pape François.
Le pontificat du pape François est parti dans une perspective nouvelle, qui est la perspective de la missionnarité très active, très forte, très engagée. Et le pape François, du premier moment, a parlé de la missionnarité de l'Église, d'une Église qui n'était pas autoréférentielle et bloquée sur soi-même. Et dans ce sens, le geste de pape Benoît, avec sa renonciation et l'élection du pape François, a vraiment aidé le passage d'une situation de difficulté, on peut dire, ou dans laquelle les difficultés étaient ressenties comme lourdes, à une situation dans laquelle la primauté de l'annonce de l'Évangile et le dynamisme de l'Église en chemin a repris à être absolument prioritaire.
Quelles sont les nouvelles que vous avez de Benoît XVI? Comment se déroulent aujourd'hui ces journées?
La vie de Benoît XVI, c'est la vie d'une personne âgée, mais une bonne santé pour son âge. Alors, c'est une vie tranquille, on peut dire, où il y a beaucoup de prières. La prière a une place très importante dans sa vie. Il l'a toujours eu, mais je pense qu'il l'a encore plus maintenant. Il y a des lectures, des réflexions, des correspondances. Il reçoit beaucoup de lettres, il répond aux lettres personnellement. Il a aussi des colloques avec des personnes qui le connaissent bien et qui reçoivent volontiers, personnes qui demandent de le de le voir. Alors, n'est pas une vie en isolation, n'est pas une vie solitaire. Hein. C'est une vie en grande sérénité. Nous avons vu un moment de fête très sympathique pour fêter ensemble le 90e anniversaire de Georg Ratzinger. Le frère aîné de Pope Benoît XVI, il y avait un petit concert dans une salle de la Radio Vatican et c'était un moment de fête, de sérénité inoubliable.
Le père Federico Lombardi. La renonciation a été un acte de grand courage, un acte aussi révolutionnaire qui a ouvert une possibilité que personne ne pouvait soupçonner à ce moment-là. Des paroles prononcées par Mgr Georg Genswein, secrétaire personnel du pape émérite et préfet de la maison pontificale, dans un entretien accordé au CTV, Centro Televisivo Vaticano, la chaîne de télévision du Vatican, et qui sera diffusée en intégralité le 14 février prochain. Les sentiments après l'annonce de la renonciation de Benoît XVI étaient la tristesse, mais aussi la gratitude. Je l'ai su un peu auparavant, mais au moment où il l'a annoncé, ça m'a secoué, reconnaît Mgr Genswein, tout en confiant que le dernier jour du pontificat a été un jour marqué par une forte douleur. Le secrétaire personnel du pape émérite souligne également la continuité entre les pontificats. Pour lui, c'est le geste de Benoît XVI qui a développé l'impact émotionnel de François parmi les fidèles. Dans la fête de Notre-Dame de Lourdes et Journée mondiale du malade, ce 11 février, le pape François publie un tweet encourageant les personnes malades à s'accrocher au Christ. Cette 22e journée a pour thème « Foi et charité, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères ». Cette phrase, tirée de l'évangile selon saint Jean, a une résonance toute particulière pour l'association Simon de Cyrène. Elle a en effet lancé le concept de maison partagée, où des personnes frappées par le handicap au cours de leur vie, à la suite d'un accident cardiovasculaire ou d'un traumatisme grave, vivent avec des personnes valides. Grâce au progrès de la médecine, les victimes de ces traumatismes restent en vie. Mais après le coma, le handicap pose la question du nouveau sens à donner à leur existence. L'idée des maisons partagées est donc de briser la solitude et de créer une famille d'amis. Le directeur général de l'association, Laurent de Chérizé, nous présente ce projet centré sur le vivre ensemble, inspiré par l'esprit de l'Arche de Jean Vanier.
L'association Simon de Cyrène est une association qui a ouvert une première maison il y a maintenant 4 ans pour répondre à une demande extrêmement forte des personnes qui ont basculé dans le handicap en cours de vie, avec des accidents de voiture, des accidents vasculaires cérébraux, un peu toutes les conséquences de la vie moderne avec sa vitesse et son stress, et qui, grâce au progrès de la médecine d'urgence, demeurent en vie et se réveillent après 6-8 mois de coma, avec une bonne mémoire de leur vie avant, et le constat qu'ils ne peuvent plus, parce qu'ils ont des lésions cérébrales sévères acquises, sont bloqués dans leurs projets économiques, leurs projets affectifs, beaucoup de leurs projets de vie, à cause du handicap physique, psychique et cognitif qui résulte de leur handicap et des lésions cérébrales. Et face à cela, la grande question dans une société postmoderne qui nous dit que notre vie est efficace, rentable, performant, qu'on est dans l'expertise, etc., pour des personnes qui basculent dans la grande dépendance comme ça, la question c'est quel est le sens de me garder en vie ? Et le cheminement qu'on a eu depuis une dizaine d'années, ça a été finalement des hommes et des femmes handicapés et valides qui ont pris goût, qui ont pris plaisir à reconstruire un projet de vie qui est fondé sur l'amitié, sur le goût de l'autre, sur le goût de préparer un repas ensemble, sur le goût de se retrouver, nourri par l'expérience des communautés de l'Arche de Jean Vanier et par d'autres expériences pilotes qu'on a vues en Europe. On a créé une approche très innovante où on regroupe de l'habitat social et on fait cohabiter dans des grandes maisons partagées des personnes handicapées et valides. On a des tables d'hôtes, on invite les gens seuls et on recrée vraiment un art du vivre ensemble.
Ces maisons, comme vous l'avez dit, ce sont des maisons partagées. Comment s'organise la vie au quotidien dans ces maisons ? À quoi ressemblent les activités qu'on peut y faire ? Les personnes qui vivent au-delà des personnes en situation de handicap ?
C'est tout simple, c'est comme une grande famille d'amis. Hein. C'est des maisons qui font à peu près 500 mètres carrés, comme une très grande maison familiale. Il y a 11 logements, chacun a son studio avec sa kitchenette, sa salle de bain. Donc on n'est pas obligé de la vie communautaire. Par contre, il y a au milieu de la maison 50 mètres carrés avec un salon, salle à manger, cuisine. C'est très chaleureux. Des 11 résidents choisissent de préparer le repas ensemble, de faire la fête, d'inviter des amis, etc. Et sur les 11 résidents, il y en a 6 qui ont eu un accident et qui sont handicapés. Il y en a 4 qui sont des assistants, soit salariés, soit des jeunes qui viennent passer une année comme volontaires et qui découvrent cet art du vivre ensemble, qui découvrent le dépassement de la peur, de la fragilité, et qui construisent vraiment cette société humaine auquel on aspire tous.
Votre association s'appelle Simon de Cyrène, pourquoi ?
Simon de Cyrène, c'est cet homme qui a été réquisitionné par un soldat romain pour aider le Christ à porter sa croix sur le Golgotha. C'est le choix d'une personne handicapée, Marianne, qui disait « Mais moi, avec mon handicap, je porte une croix que je n'ai pas choisie. » Et c'est vrai que souvent dans la vie, on a envie de choisir, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Le mystère chrétien, c'est que je crois que Dieu nous invite à consentir pour que cette croix nous permette de passer par la croix, mais pour aller vers la résurrection, c'est toute l'espérance chrétienne. Et dans la promesse de Simon de Cyrène, il y a le fait que lorsque l'on partage la croix, et bien en fait, elle est plus légère et elle nous permet de cheminer vers la résurrection.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Le pape François, qui a rencontré lundi en audience privée Mgr Cesare Nosiglia, l'archevêque de Turin en Italie, a reçu de la part de la délégation turinoise une copie du Saint-Suaire Grandeur Nature, reproduite sur un tissu similaire à l'original. Mgr Nosiglia a renouvelé son invitation faite au pape de participer à l'ostension du Saint-Suaire en 2015. Le Saint-Père a confirmé sa volonté de se rendre en pèlerinage à Turin pour honorer la mémoire de Don Bosco et pour vénérer la relique de la Passion du Seigneur conservée à Turin. Les manifestations contre le pouvoir se sont poursuivies mardi en Bosnie, notamment à Sarajevo, où plusieurs centaines de protestataires ont réclamé la démission du gouvernement. Ces protestations, d'abord sociales, prennent l'allure d'une révolte contre un pouvoir détenu par pas moins de 150 ministres à différents niveaux de la fédération. Mostar apparaît comme une cité suspendue, un lieu congelé par une paix imposée par l'Occident il y a 20 ans pour mettre fin à la guerre. Ce sont les déclarations du directeur de la Caritas locale. Il s'exprimait dans les colonnes du quotidien du Vatican, l'Osservatore Romano, Jean-Baptiste Cocagne.
Donante Comadina déplore le manque de soutien des autorités publiques aux actions caritatives. Notre État n'apprécie pas à sa juste valeur le travail que nous effectuons à Mostar et en Herzégovine. Nous ne rencontrons les politiques qu'aux festivités et aux élections. Par conséquent, ce sont les Caritas étrangères qui financent les actions dans le pays. Pourtant, la situation est urgente, la crise politique se transforme en crise sociale et les manifestations de protestation se multiplient. Pour Donante Comadina, la population se sent étranglée devant le manque d'opportunités et un taux de chômage à 43%. Un contexte qui favorise le retour des vieux démons. Certains ont peur que la Bosnie-Herzégovine ne devienne une mini-Yougoslavie. Le départ des jeunes diplômés à l'étranger constitue également une forme particulière de pauvreté, selon la formule utilisée dans un document publié en 2005 par les organisations humanitaires religieuses, catholiques, orthodoxes, musulmanes et juives. Selon cet appel unitaire, cette émigration de la jeunesse est une vraie menace pour l'avenir du pays, car ce sont ces jeunes qui doivent être porteurs de la renaissance sociale et du développement économique de la Bosnie-Herzégovine. Un constat toujours criant d'actualité.
Le pape François appelle les jeunes à prier pour la paix dans le monde et dans la région de Casamance, au sud du Sénégal. Le Saint-Père a en effet adressé un message aux jeunes réunis au Sénégal pour la 3e journée mondiale de la jeunesse interterritoriale qui se tenait sur le thème « Jeunes chrétiens, acteurs de la nouvelle évangélisation ». Je vous demande de toujours prier pour la paix dans le monde et en particulier pour la région de Casamance, les a exhortés le pape. Quelques 25 000 jeunes de 7 diocèses du Sénégal, mais aussi de Gambie, Mauritanie, Mali, Togo, Burkina Faso ou encore Côte d'Ivoire ont participé à ces journées. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi.